Ça commence le mercredi après-midi avec les collègues où on se demande comment on va faire demain. Après, ça continue à 8h20 quand les enfants rentrent dans la cour et qu'ils sont tous ensemble. Et là, on entend « Ah oui, hier, BFM TV, et puis les coups de Kalachnikov, et puis ça. » Et vraiment, on sent ces enfants qui sont, pour nous, donc de 6 à 11 ans, qui ont été baignés dans de l'information pure et peut-être pas très bien analysée. Eux-mêmes sont peut-être face à ça seuls. Et puis là, il faut monter en classe à 8h30.
Une enseignante dans 3D sur France Inter dimanche. Interrogation saisie parmi des centaines de témoignages partout dans la presse et beaucoup sur France Culture. L'école est interrogée plus que jamais depuis l'attentat qui a frappé Charlie Hebdo. Après l'émission de mercredi dernier dans laquelle nous demandions comment mieux enseigner les valeurs de la République dans les classes, nous prolongeons notre réflexion en l'élargissant au système éducatif, ses disparités, ses programmes, la conception française de l'éducation et de l'instruction et même de la laïcité. L'école doit-elle changer en profondeur? Comment faire? Nous en débattons avec nos invités. Rue des Écoles, attachée de production, Geneviève Méric, Alexandra Malka à la réalisation. À la technique, c'est Emmanuel Morse d'Incan. Les podcasts de l'émission sont disponibles sur franceculture.fr et pour parler de nous sur Twitter, n'oubliez pas le hashtag RDE. Grand Amphi, le rendez-vous de l'enseignement supérieur en partenariat avec l'étudiant.fr et EducPro. Votre invité, Marie-Caroline Missire, est étudiant.
Oui, il est étudiant. Il est le porte-parole de l'Association des étudiants musulmans de France et il va nous parler du vivre ensemble à l'université.
Et de la laïcité. On vous retrouve à 15h50. Libby Cousteau de l'Express pour l'actualité de l'école, ce sera à 15h40.
France Culture,
rue des Écoles,
Louise Fauré.
Comment rendre l'éducation plus inclusive? Quel sens donner au vivre ensemble? La question semble devenue brûlante depuis le 7 janvier. Je n'ai jamais autant lu, entendu, vu d'enseignants dans la presse. D'où une première question pour commencer à nos trois invités. Comment recevez-vous, comprenez-vous cette présence si forte du sujet dans les débats de l'après-Charlie? Philippe Tournier, vous êtes secrétaire général du SNPDEN, syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Et en ce moment, vous êtes proviseur du lycée Victor Duruy à Paris. Je dis en ce moment car vous avez été proviseur dans des établissements très différents, y compris en éducation prioritaire.
Alors je pense qu'il y a une mauvaise raison pour une partie de l'opinion, c'est-à-dire qu'on cherche effectivement un coupable à la situation dans laquelle se trouve notre pays, mais je pense aussi qu'il y a de bonnes raisons, c'est-à-dire que l'école s'interroge. Il y a déjà eu les résultats de PISA qui montraient qu'elle est la plus inégalitaire, et en plus il y a aujourd'hui le sentiment d'avoir échoué sur le partage des valeurs avec une partie du public qui nous est confié, donc c'est un peu normal que nous interrogions.
Michel Lussault, directeur de l'IFE, Institut français de l'éducation, qui publie de nombreuses analyses sur le système scolaire et les pédagogies. Vous êtes également président du Conseil supérieur des programmes. Même question.
Cela vient d'être dit. Je crois que l'école ne peut être que directement concernée par ce qui se passe, puisque l'école ne peut pas être un champ clos, mais directement impliquée dans tous les événements sociaux majeurs. Et ce que nous venons de vivre, c'est un événement social majeur, un fait social total, comme dirait l'autre. Alors il est sans doute dommage qu'on ne s'intéresse à l'école qu'à ces occasions-là, mais je crois que c'est aussi, si je puis dire, et excusez le mot, une opportunité à saisir pour l'ensemble des parties prenantes du système éducatif de comprendre ce qui s'est joué et la manière dont l'école peut répondre à un certain nombre de choses.
Et on le voit au nombre de tribunes et de débats qui aujourd'hui sont accessibles dans la presse sur l'éducation. Jean-Michel Blanquer, vous êtes en ce moment directeur général de l'ESSEC, une école de commerce, une grande école de commerce. Vous avez été directeur général des affaires de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Vous avez publié à la rentrée l'école de la vie chez Odile Jacob. Que répondez-vous à cette question, cette hyper-présence du sujet éducation dans l'après-Charlie?
Je pense que c'est tout à fait normal. En effet, on est dans un fait social total et il est tout à fait normal que l'école soit saisie en quelque sorte. Elle l'est dans tous les sens du mot d'ailleurs. Si on ne la saisissait pas, elle est saisie de toutes les façons, ne serait-ce que par les élèves. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait ce débat. Maintenant, les choses peuvent tourner du bon ou du mauvais côté, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et je pense que c'est l'enjeu de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Mais il est évident que le risque, c'est que l'on mélange tout. Et c'est, le risque, c'est que l'on rende l'école coupable de bien des choses, alors qu'évidemment, l'école est le reflet de la société. Et que l'on sait bien qu'il y a des problèmes familiaux et des problèmes sociaux qui la débordent largement. Alors, comment on fait avec cela ? C'est ce qui doit être discuté en toute sérénité. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Michel Lussault. On est dans un momentum. Et ce qui se dit maintenant, ce qui se pense maintenant, la capacité des acteurs à dépasser les clivages, les habitudes, pour essayer d'aller de l'avant vers des choses dont on pense qu'elles sont des bonnes réponses, me paraît essentiel.
On ne rejoue pas des débats qui ont déjà eu lieu, par exemple, après le 11 septembre, pour ne citer qu'un des précédents.
C'est ce qu'on va voir. Je pense qu'encore une fois, il faut en appeler à la responsabilité de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment chacun. C'est pas seulement les hommes politiques ou pas seulement les professeurs. C'est comment toute la population aujourd'hui, et notamment ceux qui ont un rôle dans l'éducation nationale, savent rebondir, en quelque sorte, et faire de ce moment l'occasion de dépasser les clivages. Or, je vois bien poindre, même ne serait-ce qu'une semaine après les événements, la renaissance des choses habituelles. Hein, après la catastrophe, les travaux continuent, si j'ose dire. Et donc là, c'est exactement ce qu'il faut éviter.
Il faut donner un exemple dans ce cas-là.
L'exemple, c'est évidemment si on retombe dans ceux qui vont dire... on a besoin d'instruction morale et civique. Et ceux qui vont répondre « Ah là là, vous êtes des passéistes, vous croyez sous la Troisième République », alors même que on voit bien qu'on a besoin d'instruction morale et civique pour les enfants. Si je prends uniquement cet exemple-là, on voit bien un sujet de consensus possible, puisque l'instruction morale et civique, elle a été prônée par les précédents gouvernements, et Vincent Peillon, et à sa suite les deux ministres suivants, on dit qu'il fallait une instruction morale et civique. Donc il y a bien un consensus possible sur ce sujet-là. Que faisons-nous concrètement sur ce thème, qui n'est évidemment pas le seul de ce qui est impliqué par ce qui s'est passé ?
Michel Lussault ?
Oui, je crois que ce qui est important, c'est qu'on vient de s'apercevoir que les gens se mobilisaient pour réfléchir à ce qui fait chose publique, ce qui fait la République. On est en train de s'apercevoir que la République ne se décrète pas, mais se fabrique. Je pense que l'école ne peut pas rester en dehors de ce moment-là particulier, parce que justement, l'école est peut-être une des institutions où l'on pose la question de la fabrique républicaine. Et effectivement, il faut trouver plutôt les points de convergence dans une société où on a été habitué par le développement des prises de position individuelles ou des prises de position des intérêts particuliers. Il faut arriver à ce moment où on trouve les convergences autour de qu'est-ce qui fait république, finalement. Et cet événement-là, il nous pose cette question de manière très redoutable.
La République et ses valeurs, ça se fabrique, ça se performe, c'est ce que devrait faire l'école. Là, je pense que vous êtes tous d'accord. Mais il y a une grande question qui est posée aujourd'hui à l'école et également à la politique de la ville, celle de l'inclusion sociale. Philippe Tournier et Michel Lussault, vous en avez parlé assez rapidement après les événements, dans des interviews au Café Pédagogique, un journal en ligne sur l'éducation. Les politiques s'en saisissent. Alors, évidemment, le Premier ministre Manuel Valls. Et puis, j'ai demandé à Valérie Pécresse, députée et ex-ministre de l'Enseignement supérieur, de réagir. Je suis allée la rencontrer ce matin à l'Assemblée.
Ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique, qui s'est imposé à notre pays.
J'ai été choquée par le mot apartheid utilisé par le Premier ministre. Parce que l'apartheid, c'était une politique d'État. Et dans la bouche d'un Premier ministre, parler d'apartheid, ça veut dire en réalité, presque qu'on a fait le choix de ne pas s'occuper de ces cités, c'est faux. Et en revanche, ce que je pense, c'est que, et n'ayons pas peur de dire des choses taboues, on a oublié la mixité sociale dans certaines banlieues. Et à force de faire du logement social sur du logement social et de concentrer des populations qui avaient tous les mêmes problèmes, eh bien on a fait fuir les classes moyennes des banlieues. On les a fait fuir, pourquoi ? Parce qu'elles voulaient donner un avenir à leurs enfants et que le niveau des écoles n'était pas suffisant. Eh bien, on a en réalité sabordé l'école de la République.
Pour le dire autrement, nous avons un énorme problème de carte scolaire. Philippe Tournier.
Ah, c'est assurément le cas, et depuis longtemps. Alors c'est un problème d'abord de géographie urbaine quand même en filigrane. Hein, le substrat, c'est la répartition inégalitaire de la population. Alors, de manière très, très politiquement correcte, on parle de diversité sociale. On peut aussi parler de la question ethnique. D'ailleurs,
il y a un apartheid scolaire.
Oh, le mot apartheid, effectivement, est peut-être un mot à la fois saisissant. Tout le monde voit de quoi on veut parler, même si, effectivement, ce n'est pas un apartheid de droit. Il n'empêche qu'il suffit de se promener en région parisienne pour bien voir que la population ne se répartit pas ethniquement de manière très équilibrée dans tous les endroits. Donc, effectivement, il y a un problème de répartition de la population, un problème de politique de peuplement, si je puis dire. Et donc, avec comme conséquence la question des établissements scolaires, d'autant que la façon dont est gérée la carte scolaire est une manière assez hors sol qui ne tient pas compte de ces réalités sociales en fait.
Donc il y a vous avez des propositions au SNPDEN,
oui,
du
nous
côté
avions
des
fait,
personnels de direction.
Voilà, nous avions fait une proposition qui s'appelait PALM, dont l'idée était que la question de la mixité ne devait pas être une grande question abstraite et théorique dont l'objectif était de construire un monde parfait demain matin, mais qu'il fallait faire mieux que ce qu'on faisait aujourd'hui. C'est-à-dire plus de pragmatisme sur le traitement de cette question. Et ce qu'on proposait simplement, c'est que sur des territoires potentiellement mixtes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pas forcément d'ailleurs contigus en zone urbaine, ils peuvent être le long des voies de transport, l'ensemble des acteurs sociaux soient réunis, collectivités territoriales, autorités académiques, parents d'élèves, établissements, l'enseignement privé également, parce que s'il n'est pas là, il sera le mécanisme de contournement,
régulation,
voilà, que tout le monde soit là et voir quelle est la situation et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et de mieux qui soit également socialement acceptable pour tous. Donc l'idée, c'est de changer la mécanique. On est actuellement dans une espèce d'emballement, d'ethnicisation, de discrimination, qui rend le discours sur la République un peu abstrait et hors sol pour une partie du public. Donc c'est d'inverser le courant et simplement de faire mieux et de montrer qu'on peut s'engager dans un progrès.
C'est possible aujourd'hui de réinjecter de la mixité sociale dans les quartiers de banlieue, ghettoisée, où on voit de ghettoisation.
Ah ben, si on les laisse tous ensemble, non, c'est pas possible. Mais on pouvait imaginer, par exemple pour l'enseignement prioritaire, une autre façon d'approcher, plutôt que de mettre ensemble les établissements les plus en difficulté, au contraire de faire des réseaux qui les associent à d'autres établissements. Je rappelle que
le choix qui a été fait.
Voilà, qu'en ville, il y a les moyens de transport, et donc la population peut se déplacer.
Jean-Michel Blanquer.
Et
je donne un point quand même d'information. On se rappelle que le précédent gouvernement avait assoupli la carte scolaire, qu'elle a été de nouveau redurcie, je ne sais pas si le terme est bien choisi, et que de toute façon, le contournement scolaire continue de progresser en France, ainsi que le recours au privé. On enregistre de plus en plus de va-et-vient entre les deux systèmes.
Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Philippe Tourné, mais tout de suite, je vois poindre un danger dans l'orientation du débat, c'est que nous sommes tous tellement désireux d'une nouvelle étape qui permette de faire mieux qu'on en viendrait presque parfois à gommer les progrès qui ont été faits. Je veux dire, tous les professeurs qui nous écoutent ou qui sont sur le terrain savent très bien qu'il y a d'incroyables réussites en matière d'intégration, qu'il y a eu des capacités à mixer dans les publics dans les dernières années. Il y a eu des politiques urbaines à partir de 2005, d'une part, et des politiques scolaires dans les années 2000 qui ont donné des résultats. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas non plus que les grandes difficultés bien réelles qui existent masquent le fait qu'on n'a pas stagné sur les 15 dernières années. Ce serait faux de dire ça. C'est d'ailleurs à mes yeux pourquoi, effectivement, je trouve que le mot « apartheid » est en fait assez mal choisi.
Mais comment
seulement...
recevez-vous alors les résultats de l'enquête PISA de l'OCDE qui indiquait, il y a un an, en décembre 2013, que l'école française est comptée parmi les plus inégalitaires, sinon était la plus inégalitaire,
oui,
en termes de reproduction des classes sociales.
Bien sûr, il ne s'agit pas de nier cela, il faut regarder cette question-là. Mais dire qu'aujourd'hui l'école et même notre humanisme serait fait de telle façon que fatalement toute personne issue de l'immigration ou de milieu social très défavorisé serait en quelque sorte assignée à résidence et dans une destinée toute faite, c'est faux. On en a fort heureusement des milliers, des dizaines de milliers de contre-exemple, et c'est heureux. Et on peut donc s'inspirer de choses qui réussissent et les faire. J'observe que dans les 10 dernières années, les initiatives qui étaient prises dans ce sens ont souvent été contrecarrées au nom de différents principes, y compris, comme vous venez de le rappeler, pour la carte scolaire, puisque son assouplissement...
Contrecarré par l'administration, par le ministère,
oui,
par les rectorats,
par exemple. Pour prendre que cet exemple, il y en aurait d'autres. Vous venez de parler parce qu'il faut être clair, vous venez de parler de l'assouplissement de la carte scolaire. Quand ça a été envisagé, c'était bien pour
quand
faire...
Quand vous étiez en poste.
Oui, c'était, je n'ai jamais pensé que c'était l'alpha et l'oméga, d'ailleurs, des politiques en la question. On pourra peut-être y revenir. C'est un sujet très compliqué. Mais en tout état de cause, son assouplissement, quand il a été envisagé, était bien envisagé pour créer plus de mixité. Quand ça a été fait, ça a été extrêmement critiqué. Là encore, pour de bonnes et des mauvaises raisons. Du côté des bonnes raisons, parce qu'en effet, quand on assouplit les cartes scolaires, on risque de, on peut aussi risquer de renforcer les ghettos. Il n'y a rien de simple en la matière. Mais en tout cas, ce qui me semble absolument décisif, c'est de s'appuyer sur les bonnes pratiques, les choses qui marchent bien en dehors de France et les choses qui marchent bien en France, et ne pas dresser un tableau trop sombre des choses, parce que ce serait contre-productif.
Je vais continuer à dresser un tableau sombre des choses. Je vous soumets une citation de Zygmunt Bauman. Je crois que j'ai jamais autant lu la presse que cette semaine. C'était dans Courrier International. Donc le sociologue qui dit « Nos sociétés refoulent des populations entières hors du corps social ». Et pour illustrer ce propos, je vous propose d'entendre Aude de Lombarès. Elle était notre invitée la semaine dernière. Elle est enseignante et elle a tenu des propos vibrants.
C'est un échec de la République. L'école en fait partie, mais c'est un échec de la République. Et j'en veux à la nation de ne pas protéger son école et ses élèves et ses enfants. Oui, les discriminations territoriales, les contournements de cartes scolaires, la fuite vers le privé, tout ça fait le jeu de l'entre-soi. On a des élèves qui sont malheureux, qui sont en souffrance, qui ont sans doute la sensation qu'ils sont dans une France qui ne les aime pas assez, ils ne trouvent pas leur place. Cela renforce les communautarismes. L'un des principes de notre devise républicaine est bafoué, puisque l'égalité des chances ne leur a pas été réellement donnée.
Voilà, je rediffuse un extrait, mais aussi c'est pour dire qu'on patine sur cette question. Et c'est aussi, pardonnez-moi, l'impression que j'ai parfois en vous entendant, en écoutant les débats. Michel Lussault, on ne vous a pas encore entendu. Sur l'inclusion sociale.
Permettez au géographe que je suis de reprendre un peu le dessus. Ça fait maintenant 20 ans que les analyses de géographie sociale et de sociologie urbaine montrent que la centrifugeuse sociale et territoriale est en action en France. Ça n'est pas une découverte. L'intérêt du moment actuel, c'est que plus personne ne peut le nier, peut-être. Nous sommes dans un pays, alors apartheid sans doute pas, évitons les anachronismes, mais nous sommes dans un pays où il y a une ségrégation sociale de fait, une territorialisation de fait de la question sociale, qui est très forte, qui n'a jamais été aussi forte. Cette ségrégation sociale de fait commence à devenir d'une autre nature. Et c'est un point sur lequel il faut insister, parce qu'elle commence à être légitimée par un certain nombre d'acteurs sociaux. Et légitimée non pas à bas bruit, mais de façon complètement explicite.
Quels acteurs sociaux ?
Un certain nombre de partis politiques qui prônent la mise à l'écart d'un certain type de population indésirable. On pourrait citer le corpus du Front National sur ces questions-là, mais aussi un certain nombre d'acteurs qui, lorsqu'on les interroge, lorsqu'on fait par exemple des enquêtes de géographie sociale, vous disent, dans une position utilitariste qui peut s'analyser et se comprendre, « Ah mais moi, notamment les acteurs de la classe moyenne, salariés, ah mais moi, si j'ai à faire le choix pour mes enfants, je ne les enverrai jamais dans l'école de mon quartier parce que je ne voudrais pas leur faire prendre ce risque. Je les enverrai donc dans le privé ou je dérogerai à la carte scolaire. » Nous avons une légitimation par un discours utilitaire et un discours de l'intérêt de l'enfant de cela. Et
mais interrogeons-nous, pardonnez-moi, sur cette notion de risque, évidemment, à mettre entre guillemets. Mais quand on entend aujourd'hui des enseignants témoigner, on a entendu Aude de Lombarès, quand on entend qu'il y a des collèges où les élèves ont réagi de manière extrêmement négative, pas tous les collèges, pas tous les élèves, évidemment, mais on réagit de façon négative à la minute de silence. Est-ce que ces informations n'effraient pas à juste titre des parents ?
Le problème qui se pose, et c'est là un problème politique et de ce qui fait République, le problème qui se pose, c'est quand un certain nombre d'acteurs sociaux, à bon droit peut-être, estiment que leur acte individuel peut être délié de ses conséquences collectives. Ça veut dire que, oui, il y a sans doute des problèmes dans certains types d'écoles, mais la vraie question à se poser n'est pas de savoir si je dois jouer la politique de ségrégation. La vraie question est de savoir comment ressaisir le projet républicain et faire en sorte que cette école fonctionne différemment. C'est-à-dire, lorsque nous entrons dans la légitimation de la ségrégation sociale, il y a un risque majeur pour la cohésion d'une société. Et je pense que nous sommes dans ce moment historique particulier.
Jean-Michel Blanquer vous répond.
C'est là que je pointe un risque. Et puisqu'on a parlé de momentum et de convergence, essayons d'en avoir une, mais en étant lucide. C'est-à-dire que ce discours sur la ségrégation, bien sûr, il est exact quant au constat qu'on fait, mais ne faisons pas comme si cette ségrégation était volontaire de la part de qui que ce soit. Ça fait des années, 15 ans, 20 ans, et ce par-delà les gouvernements concernés, qu'il y a eu du volontarisme pour lutter contre la ségrégation. Si on fait semblant de ne pas voir ça, eh bien, on passe à côté des bons diagnostics. Moi, j'ai été dans des zones extrêmement défavorisé, et j'ai pu comparer qu'on pouvait avoir des réactions complètement différentes.
Quand vous étiez, par exemple, recteur quand j'étais
j'étais recteur de Guyane, j'étais dans une zone encore plus défavorisée que l'Académie de Créteil, bien plus défavorisée que la Seine-Saint-Denis, qui n'est, entre parenthèses, pas la zone la plus défavorisée de France, loin de là. Y compris quant aux moyens publics qui y sont mis. Ben, en Guyane, par exemple, si vous faites la minute de silence, je n'ai pas été voir les derniers échos, mais je suis presque sûr qu'il n'y a eu aucun problème. Pourtant, les gens sont beaucoup plus pauvres. Et donc, la question n'est pas... Regardons les choses en face. La question, elle n'est pas qu'on aurait provoqué des inégalités et que les adolescents se révolteraient contre ces inégalités qu'on aurait voulu provoquer. Elle est dans le rapport qu'ils ont à la République. Mmh. Ce rapport à la République, il se construit. Il se construit évidemment par un avenir ouvert, et bien entendu, on a mille choses à améliorer pour ça. Ça passe d'abord par une école primaire sur ses pieds.
Donc on parle toujours d'inclusion, mais c'est plus de l'inclusion sociale, c'est de l'inclusion
pédagogique,
morale,
de l'inclusion
civique,
éducative, de l'inclusion morale et civique, et qui bien sûr débouche sur de l'inclusion sociale. On est loin d'être le pays le plus pauvre du monde, et les enfants de France sont loin d'être les plus défavorisés. Or, c'est chez nous qu'on constate
et c'est sur
le
cette
plus
question
cet incivisme. Il faut donc bien
regarder
où sont... Je pense qu'évidemment, chaque fois qu'on a voulu traiter ce que je suis en train de dire, les réactions immédiates, et je sais qu'il va y en avoir, c'est à ce que je suis en train de dire, c'est un discours passéiste, un discours de l'ordre moral ou des choses de ce type. Le mot république fait même peur, ce qui est quand même inquiétant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on parle de république, on est une sorte de nostalgique de la Troisième République, alors qu'il y a une dimension extrêmement moderne de ce discours de la république, si on veut de la véritable égalité. Mais avec république, il y a un mot qui vient, c'est responsabilité. Et responsabilité, y compris des élèves, la responsabilisation. Si nous tenons sans arrêt un discours consistant à dire mes pauvres enfants, la République est vraiment malveillante. Elle renforce les inégalités, les ségrégations. Comme vous êtes malheureux, on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait énormément de respect de la dite République. Et dire cela, c'est tout sauf passéiste, c'est justement construire cette République dont parlait Michel Lussault tout à l'heure. Et pour ça, il faut regarder les choses en face. Et ça va tout à fait de pair avec des politiques sociales volontaristes qui doivent aller plus loin que celles qui ont été menées, mais qui vont dans le sens, effectivement, de plus de mixité sociale.
Est-ce ce discours sur les valeurs qui perd un petit peu la gauche, les partis de gauche. On entend qu'il y a dénoncé par Jean-Michel Blanquer une certaine culture de l'excuse. En même temps, la ministre Najat Vallaud-Belkacem a dit qu'il fallait remettre de l'éducation, de l'instruction civique, ça dépend des niveaux d'enseignement, et chanter la Marseillaise, apprendre ses paroles par cœur. Michel Lussault.
Non, je pense qu'on peut être en désaccord sur les diagnostics. Moi, je serais tout à fait prêt à suivre François Dubé lorsqu'il écrit qu'il y a une préférence pour l'inégalité dans la société française. C'est un livre terrible et qui montre que la difficulté de la relation à la République que Jean-Michel Blanquer évoquait, c'est une difficulté que tout le monde a. Il n'y a pas simplement les groupes sociaux défavorisés qui ont un problème de relation avec la République. Lorsque s'imposent des conceptions utilitaristes des institutions publiques et des services publics, pour chacun a un problème de relation à la République. Ça serait trop facile de se dédouaner et de dire ceux qui ont un problème de relation à la République sont les pauvres. Non, tout le monde aujourd'hui a un problème de relation à la République, parce que la République, c'est la chose commune que chacun doit construire. Donc je pense que cette préférence pour l'inégalité, elle est très difficile à esquiver, elle est très incommode, elle est très inconfortable et elle pose énormément de questions. Il ne s'agit pas de donner mauvaise conscience à qui que ce soit. Il s'agit de se demander ce qui, dans le moment historique qui est le nôtre, permet de refonder le pacte social autour de valeurs qui sont partagées. Moi, le mot « valeur » ne me fait pas peur. Le mot « enseignement moral et civique », le CSP est en train de réfléchir au programme d'enseignement moral et civique.
On va y revenir.
Ça ne me fait pas peur, ça me paraît même nécessaire. Mais nous ne pourrons pas le faire si nous ne considérons pas que nous sommes tous impliqués, pas simplement un groupe social. Parmi d'autres, nous sommes tous impliqués. C'est pour ça que l'école doit se mobiliser, parce que l'école, c'est une institution publique qui nous concerne tous. Et une école inclusive, chiche, c'est-à-dire c'est une école qui considère que tout le monde est concerné, y compris les élèves qui apparemment ne sont pas des élèves en difficulté. Ce qui vient de se passer, ça n'est pas simplement le problème des mauvais élèves, des élèves exclus, c'est le problème aussi des bons élèves. C'est le problème de tout le système. Et s'il n'y a que des réponses segmentaires qui désignent des segments d'élèves, qui désignent des segments d'établissements scolaires, nous n'arriverons pas à apporter les réponses convenables. Et je pense effectivement qu'il faut que nous nous saisissions de cela de façon non partisane, mais en n'hésitant pas à mettre en exergue les différences de diagnostic, lorsqu'elles existent, parce que je crois que c'est nécessaire et sain, et puis ensuite de trouver les voies de passage. Ça peut être une réflexion sur la carte scolaire. Moi, je partage les positions du SNPDEN sur la carte scolaire, mais en tant que président du CSP, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Et puis, il y a sans doute d'autres choses qui renvoient à des thématiques plus proches de l'enseignement proprement dit, de la formation des enseignants.
On y vient, à l'enseignement. Vous avez dit, en quelque sorte, réenchanter la relation à l'école de la République. Si je vous ai bien suivi, Michel Lussault, je résume. Parlons des programmes, puisqu'il en a été question depuis le 8 janvier. Là, je parle de la minute de silence et des réactions. On parle de l'enseignement du fait religieux, dont on ne sait pas très bien quoi faire pour l'instant, puisque c'est assez mal défini dans les programmes. Mais bon, écoutons une enseignante, elle s'appelle Prune, elle était au matin de France Culture lundi.
En lycée professionnel, en 2010, il y a eu une réforme des programmes qui a fait sortir, par exemple, l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale dans le programme de bac professionnel. Alors, ça veut dire que les élèves de bac professionnel n'entendent plus parler de la Shoah, par exemple. Alors, pour travailler sur l'antisémitisme, ça devient un petit peu difficile. En terminale, on travaille sur le monde depuis le début du XXe siècle. Et là, je crois qu'ils deviennent assez mûrs. Ils ont entendu parler avant de l'humanisme, ils ont entendu parler des Lumières. Et peut-être que c'est le moment de réfléchir à comment est-ce qu'on peut revenir sur cet enseignement-là, parce qu'actuellement, on ne le fait plus. Et voilà, du coup, on ne peut plus aborder cette question.
C'est un exemple des réflexions qui ont été soumises à la nôtre, de réflexions dans la presse. On a aussi pu lire qu'il y avait un problème dans cet enseignement parce qu'on n'abordait pas la religion sous son angle contemporain, sous son angle culturel. Jean-Michel Blanquer.
Là aussi, c'est un sujet dont on s'est beaucoup saisi dans le passé. Il y a eu le fameux rapport de Régis Debray, il y a eu des évolutions. On ne peut pas dire que les religions ne sont pas dans le programme. Elles sont en histoire, on parle bien entendu du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Donc on peut certainement faire mieux dans le futur, mais ça n'est pas exact de dire que le fait religieux est absent de l'école en tant qu'objet pédagogique. Mais on peut certainement faire mieux. Mais je ne pense pas que ce soit un point si grave que cela dans les problèmes qui nous occupent aujourd'hui. Si on partait de zéro, oui, mais je ne pense pas qu'on parte de zéro. De façon plus générale, je pense que énormément de choses se jouent à l'école primaire sur ces questions-là, comme sur les
autres. Alors il faudrait peut-être commencer plus tôt.
Et donc je pense qu'il y a un point dont on parle très peu, c'est ce qui se joue sur ces questions-là à la maternelle. Il y a un potentiel d'empathie de l'enfant qui est considérable à l'école maternelle et qui doit se développer, ça renvoie à une évolution encore de l'école maternelle, laquelle d'ailleurs depuis 10 ans, on ne le dit jamais assez, je profite d'être à votre micro pour le dire, a beaucoup progressé, comme il y a le président du Conseil national des programmes, je le dis aussi, faisons attention à ce qu'on va bouger dans les temps à venir, parce que pour une fois qu'on note des progrès sur un sujet, ce serait bien de ne pas abîmer ce qui va bien.
Vous parlez un peu de votre bilan.
Une étude sortie par le ministère elle-même, que tout le monde connaît ici, je pense.
On y a consacré une émission sur le niveau des élèves.
Et qui, je crois, est importante par rapport à ce qu'on s'est dit en début d'émission, parce que cette étude montre, écoutez bien, qu'aujourd'hui, un enfant d'ouvrier en fin de maternelle a autant de chances qu'un enfant de cadre à la fin des années 90, toujours en fin de maternelle. Autrement dit, sur ce sujet-là, il y a eu du progrès social. Donc je pense que c'est typiquement un point important.
Mais c'est aussi, on revient à notre sujet, hein, c'est aussi l'école du vivre ensemble et c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut davantage travailler.
Exactement. D'abord, le développement de l'empathie qui se passe, c'est une question de la classe, c'est aussi une question de la cour de récréation, ne l'oublions pas. À l'école primaire, bien entendu, l'amélioration des choses sur le plan pédagogique, c'est-à-dire la maîtrise des fondamentaux, la structuration de la pensée, la pensée critique, ce sont des socles fondamentaux de tout ce qui va suivre ensuite. Et donc si on réussit à progresser sur ces questions-là, on progressera sur tout le reste. la question de l'histoire de France. Pardon de le rappeler, mais les programmes actuels prévoient une histoire de France claire et nette, que l'on peut problématiser davantage ensuite au collège et au lycée. Et donc ça renvoie aussi à ce que disait la professeure sur ce qui se passe ensuite au lycée. Mais cette histoire de France, si les enfants ne la connaissent pas, comment veut-on ensuite qu'ils puissent sentir une adhésion à la France ? Et puis l'instruction morale et civique, ce qui est un point très important. Si vous avez ce cocktail-là, des enfants bien structurés, sachant dans quelle société ils sont, je peux vous dire qu'ils arrivent au collège différemment aujourd'hui. Or, aujourd'hui, les problèmes que l'on a se posent sur à peu près 20% des élèves. C'est les mêmes 20% qui ont des difficultés à la fin de l'école primaire, les mêmes à peu près 20%, quand je dis 20%, c'est un peu plus, un peu moins, qui vont décrocher, qu'on va ensuite retrouver dans la société avec des difficultés. Au passage, ce pourcentage, on va le retrouver un peu moins ou un peu plus fort dans des pays comparables aux nôtres. Donc, que fait-on avec ce sujet-là ? Et nous savons tous, je crois, que c'est notamment à l'école primaire que ça va se jouer, mais bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur l'évolution du collège par rapport à cette question.
Et voilà comment en matière éducative, chaque petite question repose toutes les questions et on arrive, on retombe sur l'exclusion, y compris sociale, puisqu'on vient de parler des décrocheurs. Pour continuer sur les programmes et sur ce que peut être l'éducation civique, l'enseignement de la morale et de la laïcité, ou de la morale laïque, ou l'enseignement moral de la laïcité, enfin, on a eu beaucoup de termes qui circulaient. Un rapport du CNESCO, Philippe Tournier, qui étudie les politiques scolaires en France et en Europe, dit que finalement, on les suit peu, ces programmes, même s'ils sont imparfaits. En termes d'heures, d'horaires, on ne respecte pas l'éducation à la citoyenneté. Et par ailleurs, le secondaire ne respecte pas ses engagements démocratiques de respect par rapport aux élèves élus dans les établissements.
Écoutez, des constructions intellectuelles les plus parfaites qui se plaquent sur une réalité toute différente sont peu efficaces parce que les bonnes intentions, les projets, par exemple, effectivement, ce que le Premier ministre appelait apartheid n'a jamais été l'objet d'une volonté politique quiconque de personne. Sauf qu'à la fin, on arrive à des résultats très différents. Et ce qui est frappant, c'est l'impuissance à agir sur le réel.
C'est une immense question en éducation. Donc, je vous repose ma question. Qu'est-ce qui fait que ce qu'on décrète et qui est parfois reconnu comme tous par utile, souhaitable et possiblement réalisable, se heurte au mur du réel.
Parce que l'école inclusive et bienveillante barbote dans un bain social et idéologique tout à fait différent. Et on ne peut pas lui demander à elle toute seule de régler tous les problèmes. On voudrait que l'école soit l'écran vis-à-vis qui nous cache la réalité de la société française. Bon, quand on parle du vivre ensemble, des valeurs de la République, etc., dès l'instant où vous êtes un élève, vous voyez bien que vous vivez dans un quartier dégradé, que comme par hasard, tout le monde est de la même origine ethnique, que les perspectives sont... Et que même si vous travaillez bien, vous demandez un stage, on vous prend pas parce que vous avez le malheur de porter le mauvais prénom ou d'habiter dans le mauvais quartier. Tout ce qu'on vous a raconté à l'école sur les valeurs est perdu d'un coup. C'est-à-dire que la laïcité, les valeurs de la République, le vivre ensemble, c'est pas une sorte de vulgate théorique que les élèves annonneraient par cœur et qu'ils devraient réciter inlassablement. C'est des choses qu'ils doivent vivre. Or, le problème auquel on est confronté, c'est que tous ces enseignements ont bien lieu, mais que sur une partie du public scolaire, ils se déversent comme l'eau sur une toile cirée. C'est-à-dire que ça ne rentre pas. C'est-à-dire que les élèves ne veulent pas l'entendre. Et les élèves ne veulent pas l'entendre parce qu'une partie de la jeunesse scolaire, notamment parce qu'on n'aurait pas répondu vraiment quand même à 3 semaines d'émeute en 2005, une partie de la jeunesse scolaire aujourd'hui s'est construit une autre culture sur d'autres bases qui peut vivre à côté de la nôtre, c'est ce qui se passe. Et puis tant que c'est comme ça, je suis d'accord avec Michel Dussault, ça dérange finalement que modérément une grande partie de la société. Et puis il y a des moments où ça déborde, il y a des émeutes, il y a effectivement des troubles à la minute de silence. Et tout d'un coup, tous les 5 ou 6 ans ou 10 ans, on réalise avec horreur ce qui est en train de se passer. Alors jusqu'alors, on a annoncé des plans, des choses ont été fait, mais de manière très parcellaire, très, très, très discontinue, et alors que là, il faudrait une politique de fond sur 20 ans, c'est-à-dire transpartisane, et je ne suis pas totalement sûr que toutes les conditions soient en théorie réunies, mais peut-être que le moment particulier qu'on vit permettrait de le réunir.
On ne fera pas l'économie du débat politique ici, dans Rue des Écoles. Je le promets à nos auditeurs. À propos des programmes, on continue sur cette question. Michel Dussault, vous allez prolonger cette réflexion, mais quand même, il y a une consultation actuellement menée, enfin, un petit peu au pas de charge. Écoutez cette enseignante.
Il y a un conseil supérieur des programmes où là, il n'y a aucun professeur qui fait partie de ces instances-là. Et ce qui est intéressant, le télescopage, c'est qu'entre le 5 janvier et le 26 janvier, nous sommes éventuellement associés à cette consultation. Donc là, on n'a que 20 jours pour, en tant que professeur, donc en tant qu'enseignant sur le terrain, pour donner son avis. Alors, sachant qu'en voie professionnelle, il n'y a pas de philosophie. Justement, moi qui suis en BTS, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de bac pro et qui ont une culture générale qui est vraiment ténue parce que les programmes font que. Et ils n'ont pas forcément cet espace pour acquérir cette culture qui mettrait à distance, finalement, les événements. Et c'est vrai que nous, on aimerait être associés, justement, à cette consultation en ce qui concerne les programmes. Là, c'est vrai que nous voulons nous engager en tant qu'enseignants sur le terrain pour faire entendre notre parole.
Michel Lussault, président du Conseil supérieur des programmes, que répondez-vous à Prune, qui était dans les matins de Marc Voinchet lundi ?
Plusieurs choses. D'abord, révisons un peu collectivement, le CSP n'est pas une administration de l'éducation nationale, mais une entité indépendante placée sous l'autorité de la ministre. C'est-à-dire, je ne suis pas directeur de service, mais président d'une entité indépendante qui, justement, n'est pas chargée de représenter le milieu professionnel, mais de représenter la nation tout entière. C'est pour ça qu'il y a des parlementaires, des membres du Conseil économique et social et des personnalités qualifiées. Et c'est un choix du législateur de confier pour la première fois les programmes à une entité qui ne représente pas la profession, mais représente la République, l'engagement de la République autour des questions de culture scolaire. Et c'est un choix sur lequel il faut s'engager, et je suis tout à fait prêt à le faire. Deuxième chose, la consultation, elle est organisée par la DGESCO, pas par le CSP. Si le CSP avait eu à organiser cette consultation, peut-être aurions-nous donné un peu plus de temps, mais j'incite les enseignants qui nous écoutent à consulter autant qu'ils le peuvent, ça nous est nécessaire, et d'ailleurs le CSP pour
mais
la maternelle...
n'est-il pas un peu difficile de répondre sous le coup de cette émotion immense qui a saisi toute la nation.
C'est d'ailleurs pour ça que la consultation vient d'être décalée. Il y a 8 jours de plus et il faut évidemment, oui. Jean-Michel Blanquer le disait tout à l'heure, il faut éviter de réagir uniquement dans l'émotion. Penser que d'un claquement de doigts, on va régler des problèmes qui se sont sédimentés parfois depuis longtemps. Maintenant, venons-en au programme. L'exemple donné de la maternelle est très intéressant. C'est d'ailleurs un peu ironique que le cycle qui connaît le plus de succès dans l'ensemble de la scolarité soit justement celui de la scolarité non obligatoire. C'est quand même une manière un peu étrange de rentrer dans la question, mais il faut le constater.
Enfin, l'école maternelle scolarise.
Scolarise, mais elle n'est pas obligatoire.
95%.
Mais elle n'est pas obligatoire, et c'est important de le rappeler. C'est pour ça qu'elle est d'ailleurs importante. Mais qu'est-ce qui marche à l'école maternelle ? Et ça pose une grande question à l'ensemble du système scolaire. Qu'est-ce qui marche aussi dans les premières classes de l'école primaire ? Et qu'est-ce qui ensuite fait souvent défaut ? Ce qui marche à l'école maternelle, c'est qu'on apprend par la mise en activité des élèves et par la socialisation. C'est un enseignement qui n'est pas abstrait, en raison même du public scolaire. C'est un enseignement qui se fonde sur le vécu des élèves, sur l'éveil de leur sensibilité, sur l'apprendre ensemble et le vivre ensemble, indissociablement connecté. Petit à petit, notre enseignement va devenir de plus en plus abstrait. C'est nécessaire.
Mais c'est aussi le chemin intellectuel à parcourir entre un enfant de 5 ans et un enfant, un adolescent de 18 ans.
Sauf qu'il est clair qu'aujourd'hui, les enfants de notre société, qui sont confrontés à des accès à l'information, à des accès aux médias, à des sociétés très différentes de ce qu'elles étaient il y a 30 ou 40 ans, à une relation à leur future insertion professionnelle qui n'est pas la même. On a sans doute besoin d'accompagner la scolarité des enfants plus longtemps et de se fonder plus qu'on ne le fait aujourd'hui sur la mise en activité. Tenez, l'enseignement moral et civique. Si l'enseignement moral et civique, c'est simplement un rappel abstrait au règlement et à la loi, ça ne servira à rien. Si nous trouvons les moyens d'impliquer les élèves dans des activités qui leur font être des acteurs. Et oui, les élèves sont des acteurs des processus d'apprentissage. Tout le monde le sait. Ça ne veut pas dire que ce sont eux qui décident, ça ne veut pas dire que ce sont eux qui tranchent, mais ça veut dire qu'on ne peut pas les mettre à l'écart. Eh bien, c'est là l'enjeu de la réflexion sur les programmes et sur l'enseignement, de savoir si nous allons inventer une nouvelle école pour la nouvelle société qui est la nôtre.
Donc une réponse pédagogique, j'indique à nos auditeurs que Jean-Michel Blanquer acquiesçait à vos propos. Dernier point, assez rapidement, on va parler du recrutement des enseignants. Vous savez, il y a une campagne, on l'a passée relativement sous silence, mais une campagne de recrutement, on a besoin de 25 000 nouveaux professeurs. Mais comment devenir professeur quand on sait le sort qui vous est réservé quand vous allez commencer dans le métier ? Eh bien, c'est un sujet dont Valérie Pécresse a tenu à me parler ce matin.
Moi, j'aimerais bien devenir mathématicienne ou scientifique.
J'ai besoin de vous pour trouver.
Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît ?
T'arrives quand ? Tu viens ?
Venez avec nous !
L'éducation nationale recrute. Rejoignez-nous.
Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à avoir des maîtres diplômés, suffisamment formés, pour aller dans les écoles les plus difficiles. L'autre jour, en Seine-Saint-Denis, je rencontrais un certain nombre d'enseignants qui me disaient que dans leur école, on avait été obligé de recruter à Pôle emploi des personnes qui avaient des BTS. Et ces jeunes qui ont un BTS vont se retrouver devant les classes les plus difficiles, obligés d'apprendre aux élèves la Shoah, la laïcité et la réponse au terrorisme. La réponse, on la connaît, ce serait de faire une vraie différenciation salariale et de perspective de carrière pour tous les enseignants qui accepteraient pendant 5 ans ou pendant 10 ans d'enseigner en zone d'éducation prioritaire. Au lieu d'avoir des malgré nous qui vont être affectés dans des écoles où ils n'ont pas envie d'aller parce que malheureusement ils ont eu des mauvaises notes et qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est dès qu'ils sont arrivés d'en partir, eh bien on aurait des vrais hussards qui iraient dans les écoles, pour y rester, pour y enseigner, et parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'est le combat éducatif.
Voilà un exemple de réaction politique avec Valérie Pécresse de l'UMP, et puis cette campagne de publicité axée sur l'émotion avec des enfants qui regardent la caméra et qui disent « j'ai besoin de toi ». Une réaction, Philippe Tournier.
Alors, cette crise de recrutement est une crise ancienne qui a longtemps été masquée en fait par les suppressions de postes et qui réapparaît aujourd'hui clairement au grand jour. Si on regarde des suites sur de grandes décennies, on s'aperçoit que c'est un.
Alors comment donner envie
mouvement.
Aux enseignants d'aller dans les zones d'éducation prioritaires et comment arrêter peut-être ou faire en sorte que ça se passe mieux pour les jeunes enseignants qui vont dans les zones les plus difficiles.
Alors donner envie, il y a des gens qui ont toujours envie. Je pense qu'on peut pas trop jouer sur cette carte. En revanche, que les gens aient intérêt à y aller, c'est une autre question. Alors des différences salariales, je ne suis pas sûr que l'environnement budgétaire général soit... Puis il faudrait que ce soit en plus absolument décisif. Donc ce n'est pas 100 euros de plus par mois qui change la donne. En revanche, des avantages affirmés de carrière, c'est sans doute le levier. Aujourd'hui, les enseignants n'ont pas de carrière. Ils sont gérés de manière très bureaucratique. Tous les postes sont supposés être équivalents. Il y a l'exemple des personnels de direction. On n'a aucune difficulté aujourd'hui pour trouver un principal d'un collège très difficile. Parce qu'effectivement, c'est très valorisé professionnellement pour la suite de la carrière, alors que pour les enseignants, ça n'est jamais vraiment reconnu. Donc, s'il y a un levier, effectivement, il est de cette nature. En revanche, l'idée chimérique selon laquelle les professeurs expérimentés quitteraient les lycées de centre-ville pour aller, non seulement c'est chimérique, mais en plus, ce serait peut-être non performant. Je ne suis pas sûr qu'on puisse supporter à 50 ans ce qu'on supporte à 25 ans.
Comme me le disait un enseignant ici, même si on double mon salaire, je n'y retourne pas. Jean-Michel Blanquer, rapidement, avant la page d'actualité.
Oui, d'abord, je pense que, par rapport à ce que vous venez juste à l'instant de dire, il faut sortir des clichés. Donc, je voudrais quand même dire qu'il y a des collèges en banlieue, puisque c'est un peu ça la perspective, qui vont bien, parce qu'il y a des équipes stables, des gens qui sont heureux de travailler ensemble.
De Créteil,
ça existe dans l'Académie de Créteil. Et vous pouvez avoir à 2 km de distance un établissement qui va très bien et un établissement qui va très mal pour des raisons d'alchimie humaine, pour des raisons de stabilité des équipes. Et donc, si j'avais 2 mots-clés à dire pour le temps qui me reste, c'est la question de lutter contre l'individualisme, c'est-à-dire que ce qui compte beaucoup, c'est le travail collectif, être présent dans l'établissement.
Celui des enseignants, vous
voulez dire. Tout le monde, c'est-à-dire être collectif, c'est une équipe dans un établissement, et le monde adulte doit être uni, et c'est vrai aussi de la nation en tant que telle, de la société des adultes, le monde adulte doit être uni pour donner cette image d'unité, cette cohésion vis-à-vis des adolescents en particulier. C'est vrai dans la famille, c'est vrai dans l'école, c'est vrai partout. Et deuxièmement, donc il y a cette question de l'aspect collectif, de l'esprit d'équipe, et deuxièmement, la relation parent-école, on en a peu parlé aujourd'hui, mais elle est absolument décisive, au primaire comme au collège en particulier. Il y a des expérimentations qui fonctionnent en la matière. Si ce dialogue s'instaure dès le début, selon des manières renouvelées par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais en s'appuyant sur les expérimentations qui ont marché, on fera énormément progresser les choses. Les études montrent des progrès considérables en présence de l'élève et en comportement de l'élève quand on prend ce type de dispositif.
On passe à l'actualité de la semaine. Avec Libby Cousteau de L'Express, bonjour Libby, vous revenez aussi sur les propos de Manuel Valls hier.
Oui, ce mot apartheid, il a fait réagir. C'est une expression très forte, à dessein d'ailleurs, peut-être. Est-elle trop forte? Qu'en pensent les enseignants des établissements situés en REP+, qui tous les jours sont confrontés à ce sujet? L'un des premiers à réagir a été Sébastien Cyr, le secrétaire général du SNUIPP, le syndicat majoritaire du premier degré. Il s'exprime sur le site du Café Pédagogique et il sort de son rôle habituel. Il appelle à un réaménagement urbain des quartiers pour redonner envie aux familles d'inscrire leurs enfants dans ces écoles ghettoisées. Bien sûr, il faut agir aussi sur le plan pédagogique, mais cela ne suffit pas. C'est une façon, Louise, de reconnaître une certaine impuissance de l'école et de ses enseignants. Un constat partagé par beaucoup, même si peu osent l'avouer.
Deuxième sujet, il faut en parler, une nouvelle consultation. L'école aime beaucoup consulter depuis quelques années, le retour du numérique.
Et oui, le président de la République et Najat Vallaud-Belkacem lancent la grande concertation nationale sur le numérique du 20 janvier au 9 mars. Tout le monde est appelé à y participer, un site est en ligne, un questionnaire, un forum et tout ça se clôture avec une grande conférence nationale qui aura lieu en avril. Voilà, alors pour s'inspirer, avant de répondre, je conseille aux auditeurs de se replonger dans le tsunami numérique écrit par mon cher confrère de l'étudiant, Emmanuel Davidenkoff, mais aussi dans la dernière moisson du CIEP, le Centre international d'études pédagogiques, qui vient de sortir un gros numéro consacré à la pédagogie et à la révolution numérique, où il rapporte des expériences du monde entier.
Et des effets assez contrastés. Autre lecture sérieuse, Libby, celle d'une étude de l'OCDE.
Et oui, c'est un pavé de 400 pages qui passe au tamis toutes les réformes. On n'est pas obligé de tout lire. Mais dans tous les pays de l'OCDE, c'est toutes les réformes qui ont touché, qui ont impacté les pays entre 2008 et 2014. Alors même si l'intérêt de cet opus est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de s'en inspirer ou pas, je n'ai pas pu m'empêcher de me précipiter sur le chapitre concernant la France, qui se distingue, souligne l'étude, par le faible degré d'autonomie des établissements et notamment pour le recrutement des enseignants. Alors je fais un petit clin d'œil à Jean-Michel Blanquer qui milite... Il l'a fait dans son livre pour justement une autonomie des établissements pour le recrutement des enseignants.
Et politiquement, ça reste encore une ligne de clivage droite-gauche. Enfin, laïcité, nous y revenons.
Pas forcément,
mais... Bon, j'étais sûre que vous alliez me contredire, mais en même temps, j'espérais donner tout de suite la parole à lui. Donc, la laïcité, on revient sur le rapport de Jean-Pierre Aubin sur la question. C'était il y a 10 ans et vous l'avez interviewé, Libye, pour l'Express.fr.
Oui, une lecture tout à fait éloquente et désespérante, en fait, car beaucoup des difficultés actuelles, dues notamment au dénuement de ces jeunes, y sont décrites. Le rapport portait en fait plus précisément sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Ce n'est pas si large que ça. Il s'agissait en fait d'une enquête menée au sein d'une soixantaine d'établissements. Il relevait de nombreuses mises en question du principe de laïcité à la cantine, lors des cours de PS, de SVT, mais aussi relevait de l'absentéisme croissant lors des fêtes religieuses. Il raconte aussi par exemple l'ode à Ben Laden dans un quart de ramassage scolaire et les incidents rencontrés lors des minutes de silence en l'honneur des attentats de New York et de Madrid. Mais le plus problématique, me semble-t-il, au-delà des constats, c'est la réaction de l'éducation nationale, ou plutôt la non-réaction, l'indifférence. Tout d'abord, il a fallu attendre 9 mois, à l'époque, en 2004, pour que le ministère publie le rapport sur son site. Et après, rien, aucune mesure, aucun débat surtout. Et on se retrouve, près de 10 ans après, donc, avec des territoires ghettoisés, où le problème s'est amplifié, forcément. Parce que, comme le dit Jean-Pierre Aubin, la règle à l'éducation nationale, c'est pas de vague.
Et ça nous donne évidemment une idée de question pour Philippe Tournier, chef d'établissement. Et c'est vrai, on le sait, beaucoup d'incidents ne sont pas remontés à l'administration car il faut préserver son image en tant que chef d'établissement, l'image de son établissement et sa réputation.
Oui, je pense que c'est moins vrai que ça l'a pu être, mais dans le cas précis de la minute de silence, dans la plupart des endroits, on n'a rien demandé à personne. Sont remontés les incidents, si je puis dire, qui sont remontés spontanément. Mais la question n'est pas de savoir s'il y avait 70, 100, 200 ou même 500 incidents.
Mais pas seulement concernant la minute de silence. Allons jusqu'au bout du problème. On sait bien que quels que soient les incidents, y compris des incidents de violence, y compris des incidents qui n'ont rien à voir avec la laïcité, il y a une faiblesse de l'administration, une timidité à les déclarer. Ce sont des témoignages que rapporte un nombre incalculable de parents.
Ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui exactement. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup moins de réticence de ce point de vue. Ce n'est plus considéré comme une anomalie comportementale d'avoir un incident dans son établissement. Donc non, je ne suis pas sûr que cette mentalité-là soit toujours la mentalité exacte d'aujourd'hui. En revanche, il est certain que beaucoup d'usagers ou même de personnel de l'éducation pensent que c'est toujours comme ça. Mais il y a souvent un décalage entre la réalité et la perception qu'on peut en avoir.
Ben, écoutez, ce sont mes témoignages de première main. Jean-Michel Blanquer, pour conclure.
Mais non, je pense que là, non, sur ce point-là, avec Philippe Tournier, on était dans la même académie à une époque. J'ai essayé justement d'impulser la notion que cette idée que c'était important de dire quand il y avait des problèmes, de nommer les choses. Et on retrouve la question de l'esprit d'équipe, de la solidarité, y compris inter-établissement sur ces sujets-là, sous pas mal d'aspects, par exemple les questions d'exclusion d'élèves, mais aussi, par exemple, quand on avait créé les équipes mobiles de sécurité. Si vous êtes un chef d'établissement et que vous avez un problème, par exemple, de menace de la part d'une bande à la sortie de l'établissement, vous êtes content de faire appel à l'équipe mobile de sécurité. Donc, vous signalez le problème et ensuite, on vous apporte une réponse. Donc, il faut que signaler un problème corresponde aussi à une réponse concrète. Et puisque je cite cet exemple, c'est typiquement un sujet au moment où j'ai créé ça dans l'Académie de Créteil, mais j'ai été traité de tous les noms pour cette initiative-là. C'était des sortes de milices de l'éducation nationale ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, que je sache, et je dis ça sous le contrôle de personnes qui connaissent la réalité, elles sont tout à fait plébiscitées, elles sont très utiles. Elles correspondent à l'idée qu'il faut aussi que la force soit du côté du droit et que l'institution doit se donner les moyens parce que à l'interface entre les personnels de vie scolaire d'une part et les services de police d'autre part, il y avait comme un trou qu'on a eu besoin de combler. Ça a rendu d'immenses services et cette question de la sécurité est évidemment une question essentielle aussi pour les sujets que l'on aborde aujourd'hui.
Michel Lussault, je vous accorde 20 secondes.
Oui, l'école n'est sans doute plus une grande muette, encore qu'elle ne soit pas assez bavarde, et surtout commence à se développer des pratiques de traitement collectif des problèmes. Et je pense qu'à chaque fois qu'on est capable d'apporter une réponse collective à l'échelle d'un établissement ou d'un groupe d'établissements, on s'aperçoit, on l'a vu encore ces jours-ci, qu'on fait du très bon travail. Et c'est aussi une incitation du président du CSP à mettre l'accent sur ce travail collectif. C'est la clé sans doute d'un bon nombre de problèmes que nous avons évoqués aujourd'hui. Nous ne travaillons pas encore suffisamment collectivement dans l'école française.
Et de l'école, on passe au supérieur. Restez avec nous, c'est la dernière partie de l'émission.
Grand Amphi, rue des Écoles, Louise Touré.
Et Marie-Caroline Missire, nous venons de parler de laïcité. Est-ce la même laïcité dont nous parlons sur les bancs de l'école et ceux de l'université? Nous allons poser la question à l'Association des étudiants musulmans de France, une association plutôt rare dans les médias.
Marie-Caroline. Et comment les étudiants de confession, de culture musulmane ont-ils traversé les dramatiques événements que nous venons de vivre? Quel message entendent-ils porter vis-à-vis des jeunes issus de l'immigration? Et surtout, comment vivent-ils la laïcité à la française dans le contexte qui nous occupe? Nous recevons Yanis Khalifa, porte-parole de l'EMF France, l'Association des étudiants musulmans de France, en duplex de France Bleu Normandie, France Bleu Basse Normandie, pardon, que nous remercions. Bonjour Yanis Khalifa.
Bonjour à vous.
Bonjour. Yanis Khalifa, comment les étudiants musulmans que vous représentez ont-ils vécu les attentats des dernières semaines? Et est-ce que vous craignez une montée de l'islamophobie à l'université?
Alors évidemment, à l'image de l'ensemble de la communauté nationale, nous avons vécu avec une grande émotion les derniers événements qui sont survenus suite à la parution de Charlie Hebdo. Et évidemment, non seulement nous craignons les actes islamophobes, mais ils se sont avérés malheureusement, puisque dans la semaine, pas dans l'université, mais dans la société en général, et il faut savoir que l'université ne vit pas en vase clos. Donc forcément, ces inquiétudes-là se propagent dans tous les milieux. Néanmoins, il faut aussi mettre l'accent sur un certain nombre d'initiatives plutôt positives. Par exemple, j'ai envie de parler de l'association Coexister, avec laquelle collabore Étudiants musulmans de France, notamment. Qui a mené un certain nombre d'actions dans lesquelles nous avons collaboré, notamment sur Twitter, pour promouvoir la coexistence active et le vivre ensemble.
Et alors, pourquoi, Yanis Khalifa, êtes-vous aujourd'hui impliqué dans une association d'inspiration confessionnelle? Et surtout, quelles sont vos valeurs et vos combats dans cette association?
Alors, il faut savoir que Étudiants musulmans de France est une association qui a 25 ans, qui est représentée dans une quinzaine de villes, et qui est ouverte à tous. Donc, elle prône des valeurs issues de l'islam, un peu comme le ferait le Secours catholique dans ses actions sociales, mais elle est ouverte à tous et propose des actions qui se déclinent sur trois axes principaux.
Et pas simplement les étudiants musulmans, c'est ça?
Pas seulement, même dans les instances dirigeantes des sections, nous avons des non-musulmans qui siègent à des postes stratégiques comme trésorier, secrétaire, voilà.
Intéressant. Marie-Caroline Missire a dit, Yanis Khalifa, que vous représentiez les étudiants musulmans. Vous représentez, il y a énormément d'étudiants musulmans dans les universités françaises, à l'image de la société. Vous pensez les représenter tous, représenter les gens qui votent pour vous aux élections universitaires? Qui représentez-vous exactement?
C'est sans doute un abus de langage de dire que nous sommes représentants de tous les étudiants musulmans de France, mais notre électorat, puisque vous lui faites référence, dépasse bien loin le simple électorat musulman, puisque nous avons, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, des gens qui sont actifs dans notre association qui ne sont pas musulmans, et qui viennent nous consulter pour des actions syndicales, puisque, comme je voulais le dire tout à l'heure, nos actions se déclinent en trois axes, donc le culturel, le social et le syndical. Et toutes nos actions sont dirigées vers l'ensemble de la communauté étudiantine. Et c'est par des valeurs que nous sommes portés, que nous rassemblons. Et ces valeurs, nous les croyons universelles. Donc ce sont des valeurs très, très simples, comme celle de la solidarité, de la justice, de l'entraide, de l'excellence, des choses comme ça, voilà.
Et Yanis Khalifa, comment réagissez-vous à ce que certains enseignants ont pu constater dans les collèges après les attentats ou dans les lycées, avec des réactions parfois hostiles ou d'incompréhension de certains élèves de confession ou de culture musulmane? Comment vous réagissez à ça et quel message vous voulez adresser à cette jeunesse, puisqu'il ne s'est pas passé la même chose à l'université?
Alors, ces réactions des professeurs sont compréhensibles. Nous étions dans une phase de grande émotion après ce qui est survenu, mais il faut comprendre une chose, je pense, c'est que chez un public de cet âge-là, il ne faut jamais négliger l'aspect provocation. Je pense qu'on a réagi de manière très très émotive à ces réactions de jeunes. Ces jeunes qui se sentent pour la plupart exclus un peu du système. On a parlé un peu de carte scolaire tout à l'heure, etc. Je pense que c'est des débats qu'il faut remettre sur la table, mais sur un angle plus vaste. Voilà.
C'est-à-dire un angle plus vaste.
Par exemple, la carte scolaire n'est qu'une partie du problème. Il faut par exemple penser au système de gestion des carrières des professeurs, comme ça a pu être évoqué dans les précédentes interventions. Il n'est pas normal, par exemple, que ce soit que les jeunes professeurs qui sont envoyés dans les zones prioritaires, alors que ces jeunes professeurs-là sont sans expérience, pour la plupart, et certains finissent en dépression très tôt. Moi, j'en ai connu, puisque j'ai été moi-même en zone d'éducation prioritaire, et certains de mes professeurs sont partis en dépression dès les premières années. Ce n'est pas admissible.
Oui. Yanis Khalifa, on vous entend bien sur ce point, même s'il y a eu un débat dans l'émission tout à l'heure sur le fait d'envoyer des profs expérimentés dans les EP. Revenons à l'université. Les étudiants musulmans que vous représentez, donc, se sentent-ils aujourd'hui discriminés, à votre avis?
Alors, il faut savoir que la laïcité est applicable partout en France, mais la loi de 2004 qui proscrit notamment le port de signes religieux dans l'école n'est pas applicable à l'université. Cependant, il y a chaque année des tentatives de remettre un peu ce genre de restrictions à l'université.
Oui, vous faites référence aux propositions du Haut Conseil de l'intégration qui proposait d'interdire le port du voile à l'université.
Absolument. Sachant que donc le port de signes est autorisé dans l'université, en tout cas il n'est pas interdit, mais certains établissements font du zèle, il faut le savoir.
C'est-à-dire
que certains étudiants, ou des étudiantes notamment, sont interpellés lors d'examens, on leur demande de retirer notamment leur voile pour celles qui le portent, pour des vérifications arbitraires, alors que ça n'a pas lieu d'être, voilà, tout simplement, par exemple, ou bien même lors d'examens d'inscription dans certains établissements, aussi, on a ce genre de discrimination-là. Je ne parle même pas des stages qui posent évidemment problème aussi pour ces étudiants. Donc, il y a quand même un certain nombre de cas qui posent problème vis-à-vis des discriminations concernant spécifiquement les musulmans.
Et vous aimeriez quelle vision de la laïcité vous portez à l'université? Alors, un statu quo, on reste dans la situation qui est celle que l'on connaît aujourd'hui, où on permet plus de choses dans le port de signes religieux. Qu'est-ce que vous portez comme vision là-dessus?
D'un point de vue strictement légal et juridique, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que le règlement actuellement n'entre pas en conflit avec la liberté de pratique religieuse, etc. Le problème qui se pose, c'est plus dans la société en général d'une part, et précisément, plus particulièrement dans le milieu professionnel, lorsqu'il s'agit de stages ou d'emploi. Voilà, donc nous prenons une laïcité inclusive dans le cadre de la coexistence active et surtout Voilà, un climat
apaisé. Qu'est-ce que vous entendez par laïcité inclusive ?
C'est-à-dire qu'une laïcité fidèle à la loi de 1905 et à son esprit qui était créé à l'origine, il faut le rappeler, pour permettre à l'ensemble des citoyens de pratiquer librement leur religion, en public comme en privé, ainsi qu'on dispose de nombreux textes internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont son article 18 notamment.
Yanis Khalifa, merci beaucoup pour cette intervention. Merci. On retiendra donc que vous ne souhaitez pas l'extension de la loi de 2004 à l'université et que vous portez un combat pour une laïcité inclusive.
Et merci à vous, Marie-Caroline Missire. On vous retrouve la semaine prochaine pour Grand Amphi à 15h50.